on est rassemblés ici dans le cadre de, d'Agora pour donner la parole au club. Qu'est-ce que c'est que le club ? Le comité local UNESCO Bordeaux, à l'occasion de la célébration des 10 ans de l'inscription de Bordeaux Port de la Lune, Agora, sur le thème du paysage, donne la parole au club. Alors, pour en parler, à mes côtés, je m'appelle Anne-Laure Mognot, je suis architecte, je travaille à Bordeaux Métropole et notamment en charge des affaires de patrimoine. Ça m'est fait rire. Bien sûr, bon, ça sera enregistré. Xavier nous a rejoint, donc nous pouvons commencer sérieusement. Alors avec moi pour en parler, deux membres du club, de la jeune génération, on va dire. Élodie Vouillon, architecte, urbaniste, directrice du CAUE, et Aurélien Dufour, architecte urbaniste aussi, et surtout architecte du patrimoine. Voilà. Alors, le club, il n'est pas très connu, donc, voire mal perçu, et toutes sortes de préjugés circulent à son égard. Alors, on entend qu'il serait inflexible et chercherait à figer la ville, à la mettre sous cloche, et, ou alors il ne serait au contraire qu'une chambre d'enregistrement de projets qui, finalement, club ou pas club, débat ou pas débat, n'évoluerait pas. Alors la ville de Bordeaux et les membres du club ont voulu vous rencontrer et vous raconter ce qu'est ce comité local UNESCO Bordeaux, pourquoi il existe, quel est son fonctionnement, quels sont les sujets qu'il traite. Et pour en parler, pour commencer, je vais passer la parole à Élodie Vouillon, qui va nous raconter un peu la genèse. Alors Élodie, quand est-ce qu'est né le club et pourquoi ?
Bonsoir, bonsoir à toute la salle. Oui, le club, c'est important de rappeler pourquoi. Pourquoi nous sommes là ? Effectivement, ça fait 10 ans que le site Bordeaux Port de la Lune est inscrit au patrimoine mondial. Que s'est-il passé par la suite ? En 2008, c'est ça, l'été 2008, plusieurs projets ont fait débat et ont questionné et ont même déclenché une mise sous suivi renforcé. Donc les trois projets, vous le savez, c'est la destruction du pont Pertuis à Bacalan. Il y a eu également le projet du collège Cassignol qui était un ancien chai pour partie. Et l'objet, finalement, une partie de la façade a pu être conservée. Et puis le dernier, le plus connu, je dirais, c'est le pont Chaban-Delmas. Bacalan-Bastide, qui lui a fait beaucoup parler de lui, puisque il a fallu réduire sa hauteur, revoir ses piles. Et donc suite à ça, l'UNESCO a demandé à ce qu'il y ait une instance de suivi, et qui s'est matérialisée au départ par j'allais dire un petit atelier et qui s'est transformé à la demande d'Alain Juppé dès février 2009 par le club, donc le comité local, qui réunit des experts, alors architectes, historiens, paysagistes, des spécialistes, des représentants d'associations, des personnes qualifiées, et puis récemment, j'allais dire plus récemment, des représentants des quartiers également, pour que ce soit une instance aussi vivante et de partage. Alors, le club, c'est avant tout une instance de dialogue avec les porteurs de projets. Donc, c'est vrai qu'on est là pour tordre le cou aux idées reçues, on n'est pas là pour figer les choses et donner vue d'en haut. C'est une instance de dialogue, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais l'obligation est bien de faire remonter au comité UNESCO toutes les décisions qui vont être prises. Voilà. Donc, si on retient dans notre mission de base, qu'il me semble important de rappeler, c'est le pourquoi on a été créé. C'est avant tout pour appréhender le grand paysage, le paysage urbain dans son ensemble, et surtout pas comme une juxtaposition d'architecture. Et pour chaque projet que nous allons observer et analyser, L'idée, c'est toujours de voir, lors de la transformation qui nous est proposée, si la valeur universelle et exceptionnelle du patrimoine UNESCO est altérée, ou en tout cas si les moyens mis en œuvre permettent de préserver un caractère, une identité forte. Et donc on est vraiment dans cette approche contextuelle de perception globale. Je tiens à le dire parce que certes nous voyons des petits projets, des fois on a l'impression d'être sollicité de manière séparée, mais il faut toujours les remettre en perspective du grand paysage de cette façade. J'allais dire, il y a la grande façade, mais il n'y a pas que ça. On va parler après de où on travaille. Voilà, ce que je peux dire, c'est vraiment travailler sur l'interaction, et on l'a dit tout à l'heure, faire avec la ville ancienne en permanence. C'est comment on permet à l'architecture contemporaine d'exister tout en s'insérant dans un patrimoine très fort.
Merci Élodie pour cet éclairage. J'aimerais que l'on précise une chose. Aurélien Dufour, vous êtes architecte du patrimoine. Vous travaillez donc plus particulièrement à des projets qui rendent nécessaire de bonnes connaissances du bâti ancien. Et vous êtes membre du club à ce titre. Mais les questions patrimoniales ne se limitent pas au bâti. Pouvez-vous nous préciser quel est le périmètre de Bordeaux Père de la Lune tel que l'UNESCO l'a inscrit sur la liste du patrimoine mondial, et quels sont les différents enjeux auquel le club est confronté dans ces discussions?
Alors en effet, après avoir expliqué le pourquoi du club, il faut expliquer un peu le comment. Donc là, vous pouvez voir une vision un peu romantique du secteur. Comment on fait pour aller en avant? Hop, ça. Non. Voilà d'une façon un peu plus précise les dimensions du secteur. Donc vous pouvez voir qu'au-delà du secteur sauvegardé qui est en partie centrale, on a une première couronne qui comprend, on va dire, qui s'arrête au boulevard et sur la rive droite de la Garonne, et une zone tampon qui, elle, correspond à la voie, voilà, au petit chemin de fer. Je cherchais le mot. Le petit chemin de fer qui englobe la ville. Ce qui est très important de voir, c'est qu'on voit que les trois zones, alors le secteur sauvegardé nous concerne moins, mais au moins les deux autres, sont toutes les trois centrées sur quand même le port de la Lune. Et d'ailleurs, les trois zones, elles aussi, ont un contact direct d'ailleurs avec le fleuve. Il faut savoir que le côté portuaire de la ville a été capital dans ce classement UNESCO. Vous remarquerez également que cette zone, qui est très vaste, parce que le site inscrit fait 1810 hectares, donc sans compter la zone tampon autour, il y a des quartiers très divers. On a des zones, on va dire, d'échoppes au sud de Bordeaux, à des faubourgs de la vieille ville au niveau de Saint-Seurin et Fondaudège et des Chartrons, et puis des quartiers plus modernes comme Mériadec, le Grand Parc, et des quartiers en devenir, surtout en ce moment, autour du bassin à flot. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est que tous ces quartiers ont le trait d'union reste le port qui a été un vecteur de communication, de prospérité et par là donc de qualité et d'unité architecturale de la ville. Alors, une fois qu'on a identifié le périmètre, il faut, comme tu l'as très bien dit, il ne faut surtout pas le voir comme une zone non à edificandi. Au contraire, comme architecte moi, mais comme tout le monde, on a tous des projets contemporains dans la ville. Et donc, il faut essayer de comprendre maintenant pourquoi et comment le club agit vis-à-vis des porteurs de projets. Donc, ce qui est très important, en effet, pour nous, c'est d'identifier dans chaque projet un peu la substantifique moelle qui fait que tel projet, tel ensemble urbain, telle place, telle friche industrielle est un élément structurant de la ville et du côté remarquable de cette ville. C'est pour ça aussi que nous sommes sollicités à toutes les échelles. Sachez qu'il n'y a pas que des particuliers. Il y a bien sûr des particuliers avec des projets de particuliers, d'immeubles, mais il y a également des institutionnels, des promoteurs avec des projets de refonte de parcelles, d'îlots entiers. Et même la mairie de Bordeaux nous questionne pour des questions de réaménagement de l'espace urbain. Alors après, comment fonctionne le club ? Je crois que c'est ce qui a été très bien dit, c'est un organe de dialogue. On n'est surtout pas un organe coercitif. Ça, il faut se retirer ça de la tête, parce que de toute façon, nous n'en avons pas la structure juridique et que ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel il a été construit. Il est là pour dialoguer, pour en amont aider les porteurs de projets et les maîtres d'œuvre à, pas à changer leur projet, mais à l'orienter dans un plus grand respect du patrimoine UNESCO. Voilà. Donc, il se déroule à hauteur de une réunion mensuelle, durant laquelle nous avons une première phase de discussion avec le porteur de projet, et durant lequel il nous explique son projet. Alors cette phase est très importante et il y a lieu de noter que la précision et la fourniture de documents de la part du porteur est importante parce que ça nous permet à nous de mieux appréhender le projet. Et je vous assure que plus un projet est expliqué, documenté et justifié, eh bien, plus il passe et il a notre approbation, voire même il arrive à changer notre premier avis de prime abord, notre réticence, exactement. Deuxième phase, c'est le dialogue après entre nous, où là je ne vous cache pas que l'avis n'est jamais unanime, il est souvent mouvementé, voire parfois très mouvementé. Hein, parfois, on n'est jamais d'accord, mais on arrive malgré tout à la fin à tomber sur un avis commun. Avis qui se formule sous la forme de conseils, d'orientation. Voilà, on est un organe de conseil et le mieux est de nous interroger bien en amont et souvent les projets s'en trouvent bien embellis, bien améliorés. Voilà. On va peut-être voir
quelques exemples, oui.
Des exemples voilà. Précis.
Alors, qui s'y colle pour les exemples ?
Allez, je me lance.
Tu te lances ?
Allez, je me lance sur un qui me tient particulièrement à cœur, le tétrodon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite animal jaune ? Alors, le tétrodon, c'est un pavillon. Alors, je vais vous le montrer, si tu veux bien avancer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites choses-là. Donc, c'est en polyester moulé. C'est une sorte de bungalow de vacances de pratiquement 50 mètres carrés pour 4-5 personnes qui ont été créés dans les années 60 par Siriani et Bers. Et qu'on a retrouvé, par exemple, à Lège-Cap-Ferré, au village vacances de Claoué. Et quid de la seconde vie de ces éléments ? Eh bien, l'architecte Bernard Buller est venu nous présenter un projet de réutilisation de ce pavillon pour l'insérer. Alors, on va peut-être revenir du coup en arrière, voilà, sur la photo aérienne encore. Voilà. Vous voyez le petit, petit carré rectangle jaune. Donc là, on est au Chartron à Bordeaux, 3 rue Maurice, et au-dessus de l'agence de cet architecte. Voilà. Et donc, il est venu nous présenter son projet d'installation de ce tétrodon sur le toit, le versant en tuiles, pour lui donner une seconde vie. Alors, autant vous dire que ce genre de sujet a suscité du débat, mais j'allais dire que la première réaction a été la surprise et même la séduction. On a vraiment été très, très surpris, mais dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, je le disais tout à l'heure, donner seconde vie à un patrimoine déjà du XXe, pour nous, ça a beaucoup de sens. Et qu'en l'occurrence, quand on voit la dent creuse sur laquelle il se pose, l'insertion urbaine, pour nous, était parfaitement réussie. Et c'est justement cette architecture contrastée entre, d'un côté, la pierre et puis la culture pop et le jaune, affiché par le tétrodon, que nous trouvions intéressant. En tout cas, c'est ce dialogue et cette interaction dont je parlais tout à l'heure qui, pour nous, fait sens dans ce cas-là. Alors, on a suggéré finalement pas grand-chose, mettre une plaque signalétique, communiquer, pourquoi pas le faire visiter lors des journées du patrimoine. Bon, très bien. Mais ce que je voudrais dire sur cet exemple-là, qui peut faire débat, c'est que, d'abord, il rappelle l'appel à idées habiter sur les toits. On est complètement dans cette problématique, un appel à idées de Agora 2014, c'est ça, hein, voilà, que l'avait lancé la ville de Bordeaux. Avec eux. Oui. Ouais. Et du coup, même si on est dans cette interrogation-là, tout est possible, au demeurant, c'est pas parce que, en l'occurrence sur ce projet, on trouve que c'est réussi, que le club va systématiquement promouvoir la répétition de ce modèle. Il faut vraiment rappeler qu'on est à chaque fois dans un contexte précis, je le disais tout à l'heure, une approche très, très contextuelle qui fait que là, en l'occurrence, ça fonctionne. Voilà. Donc, ça fonctionne parce que c'est une œuvre d'art unique dans la ville. Hein, c'était un peu le message qu'on a retenu. Donc, voilà, le club n'est pas figé, n'est pas dans la poussière de la vieille pierre. C'est se remettre en question et se poser des questions. Et voilà, et ce projet, par exemple, est passé. Donc, vous le voyez sur cette petite photo où là, on le voit vraiment posé sur une petite plateforme qui elle-même est posée sur la toiture en tuiles. Voilà. Après, je pense qu'on a un autre exemple intéressant. Je vais te laisser en parler. Une autre échelle, en fait.
Alors voilà, c'est pour illustrer finalement les différences d'échelle. Hein. On a à la fois des petites opérations, mais qui ne sont pas dénuées de sens et d'intérêt pour la ville. Là, on est sur une échelle beaucoup plus grosse, parce qu'il s'agit de la halle Lescure, là, le dépôt de bus de la halle Lescure, qui actuellement d'ailleurs est en candidature. Ce qui a été bien dans cette opération, c'est que nous avons été consultés bien en amont. Ici, ça a donné lieu à deux ou trois séances du club pour pouvoir petit à petit affiner, modifier, changer notre avis. Alors, les premières séances ont été justement de conseiller une étude urbaine, conseiller une étude aussi patrimoniale, par un architecte du patrimoine qui puisse analyser cette halle qui est quand même très ancienne, qui est typique de cette architecture. Sur le coup, premier réflexe a été de dire attention, on ne démolit rien, on essaie de voir. Alors en même temps, on voyait bien qu'on était, on est sur comment s'appelle cette barrière, ces portes. Porte de Bordeaux, oui. Voilà, on est sur le boulevard Pompidou et le boulevard Gautier qui mène au CHU. Et donc premier réflexe pour nous, c'est de dire attention, on touche à rien, on fait appel à un architecte du patrimoine. Alors en effet, c'est peut-être excessif, mais c'était un premier avis en amont pour permettre justement à cette étude pour après dans les phases ultérieures bien déterminer, on va dire, les zones d'intervention. Donc le site, comme je vous l'ai dit, il est composé de cette grande halle métallique qui est tout simplement splendide, avec des façades en pierre et là qui sont typiques de cette époque-là, une époque où Bordeaux se développe, où fin 19e, où là on Bordeaux rayonne au maximum. Donc ça a du sens vis-à-vis du classement UNESCO. Donc ça serait aberrant et architecturalement parlant, parce que la halle est intéressante, et même du point de vue UNESCO, parce que là on touche vraiment à ce que je disais tout à l'heure, à la substantifique moelle de ce qui fait le classement UNESCO. Donc là on est même pas dans le site inscrit, on est dans la zone tampon, et on intervient, et là on dit attention, il faut avoir un œil dessus, ce qui n'empêche pas, encore une fois, une intervention contemporaine. Ça, l'avenir nous le dira, parce que le concours est lancé. Mais en effet, on voyait bien qu'il y avait une structure. On le voit peut-être pas très bien dans ces photos, mais il y a des axes majeurs qui structurent le site, avec un axe qui donne sur une belle horloge, où il y a toute une symbolique là-dedans. Et là-dessus, on a demandé aux porteurs de projet donc d'être très vigilants là-dessus, de garder cet axe, de garder les façades, de garder la halle, mais après, en effet, intervenir comme ils le souhaitent sur le front des boulevards, que ce soit aussi bien le boulevard Pompidou que le boulevard Antoine Gautier. Il y a même des parties de halles qu'on a dit qu'on pouvait démolir parce qu'elles longent ce boulevard Pompidou et elles ne sont vraiment pas très heureuses. Donc voilà, on alerte. Là, pour l'instant, je pense qu'on a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a posé les jalons. Et puis après, on verra donc dans l'avenir. Je pense qu'on aura le droit à une nouvelle réunion du club dès que le projet aura avancé. Alors maintenant, on va vous parler d'un...
Si tu permets, Aurélien, je voudrais bien aussi revenir sur ce cas-là. Alors, je l'ai peut-être moins suivi que toi. Moi, ce qui m'a frappé là sur ce projet, c'est vraiment la question de la méthode de conduite de projet. Et ça, moi, ce qui m'a vraiment, oui, frappé au départ, c'est que tout a bien commencé. Hein, c'est vraiment une affaire de rebondissement, hein, les Halles Lescure. Tout a bien commencé, sauf que lors d'une visite, donc moi, c'est là que j'ai commencé à rejoindre le wagon UNESCO, tout à coup, pour un défaut d'entretien depuis de longues années et de la corrosion avancée de la charpente, on nous explique qu'elle est tellement fragile qu'il faut démolir. Donc, on ne peut pas condamner un patrimoine à l'avance de cette façon-là. Et je pense que le club, du coup, a eu un vrai rôle à jouer à ce moment-là, parce que du coup, c'était lancer une étude historique avant de se prononcer comme ça sur conserver, pas conserver. Donc, ces études historiques, patrimoniales, puis une étude de faisabilité, hein, de mémoire avec urbaine, avec Paul Vincent, voilà, plus l'étude historique de Cachot-Mogendorf, ont pu mettre en évidence effectivement qu'il y avait un réel intérêt à conserver. Donc il y a 5 nefs, une charpente métallique 19e, c'est le seul exemple avec la gare de Bordeaux qui reste comme trace sur l'agglomération bordelaise. Donc il y a un réel intérêt patrimonial, et que pour le coup, ces études ont infléchi le projet. C'est-à-dire que certes, on demande le maintien autant que possible des halles et l'axe de la rue des Pêcheurs, donc on voit sur la photo là, qui est l'axe majeur de composition du site, et sur le reste, on tolère des démolitions, etc. Mais vraiment, c'est ça qui m'a frappée, c'est que finalement, si on n'était pas intervenu, voilà, sous couvert de... Voilà, il y a un problème de méthode de, voilà, de méthode de projet qui est essentiel. Et là, je m'adresse à la maîtrise d'ouvrage en général, quoi.
Oui, moi, je peux en parler aussi. Il y avait un moment donné où... En fait, il y avait eu des confortements qui avaient été faits pour éviter tout simplement que tout s'effondre. Et alors, on nous les montrait, ces confortements, en nous expliquant qu'ils étaient tellement horribles qu'on ne pouvait pas imaginer garder ce bâtiment. En fait, ce qui manquait, c'était un projet d'architecture, de restructuration, de restauration qui soit pensé, qui soit défini en fonction de l'usage futur. Enfin, voilà, on revient à la question du projet. Alors, autre exemple, une grosse escalope, encore une fois, hein, parce qu'en fait, on est souvent confronté, il faut le dire, à des mutations, des reconversions urbaines. Hein. Et alors, ce que je vais rajouter quelque chose qui n'a pas été assez dit, c'est que dans la mesure du possible, le plus en amont possible, et sur le site, on va voir ensemble, avant de discuter de ce qui peut advenir, on va voir ensemble ce qu'il y a. Parce que sinon, en fait, chacun discute avec l'image qu'il se fait de ce qu'il y a. Et alors, c'est encore pire quand c'est démoli, c'était super avant. Sauf qu'en allant voir ensemble, on peut vraiment parler de choses qu'on connaît. Alors, je repasse la parole à Élodie ou Aurélien, et on parle de Marie Brizard.
Oui, parce qu'on a chacun aussi notre vision, c'est ça qui est intéressant. Donc, le site de Marie Brizard, effectivement, escalope, oui, c'est bientôt le repas, on a tous très faim. Oui, c'est un gros morceau de ville, parce qu'on nous dit parfois, oui, le club, finalement, est-ce que vous voyez les gros projets? Alors, on les voit peut-être pas tous, hein, mais on en voit quand même un certain nombre. Et donc, le site Marie Brizard, là, il est intéressant aussi pour cette consultation en amont. Là, on a un maître d'ouvrage. Donc là, on est donc rue Fondeau-Dège. Et on a un maître d'ouvrage, donc Belin Immobilier, qui vient avec son équipe d'architectes consulter en amont de la vente le club pour connaître les grandes orientations patrimoniales, architecturales, enfin en tout cas qu'on débatte dessus. Donc déjà, ça c'est un premier bon point. Alors, si on avance sur la... Voilà, donc là on le voit... Alors, est-ce que tu peux... On a un viseur, vous voyez la façade rideau, on ne voit pas très très bien. Vous avez un grand bloc en toiture tuile et un toit terrasse un peu recouvert de plusieurs éléments. Ça, c'est l'immeuble emblématique, hein, de Marie Brizard. Donc là, on est sur une façade en verre. C'est la préfiguration des façades miroirs d'aujourd'hui, hein, les fameux murs rideaux. Donc, c'est réalisé en 1955 par Salier Courtois. Et donc, le porteur de projet souhaite, en tout cas dans son projet, garder cet immeuble, mais également la grande halle d'embouteillage que vous pouvez voir avec sa verrière, qui sont des éléments forts du projet. Donc, l'idée aussi est de garder un parvis, d'aérer un peu tout ça, enfin de créer un parvis. Et puis, c'est un site stratégique pour la ville en termes de stationnement, si j'ai bien compris, hein, avec de la compensation suite aux aménagements du tram. Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'une première réunion, puis après encore une deuxième, et donc sans surprise et sans rebondissement, pour le coup. Non. Voilà, tout c'est vraiment, ça s'est enrichi au fur et à mesure. Donc la première, qui était presque sans projet, enfin, j'allais dire qu'elle était plus une intention programme en plan, on avait juste deux réserves. Hein, c'était préserver cette façade rideau, ce mur rideau. Il y avait la question de la démolition d'un escalier intérieur. Et là, le club a compris et a fait un compromis en disant oui, on peut le démolir. Donc on ne préserve pas tout coûte que coûte. Hein, c'était... après discussion. Hein. Et puis, il y avait aussi la question des façades aveugles qui allaient être... Alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas si on... Est-ce qu'on en a d'autres? Voilà. Alors, vous voyez, là, on le voit bien. Alors, quand on dégage, si tu veux bien avancer... Donc, ça, c'est l'intérieur de la grande halle d'embouteillage.
dernièrement.
Alors, parce que là, ça avance pour le coup, entre-temps. Parce qu'on a commencé à les voir en 2015, hein, décembre 2015, ensuite en septembre 2016, donc tous les ans. Alors là, on voit bien sur l'îlot les parties qui sont importantes à conserver. Donc vous voyez en rouge le fameux bureau emblématique, immeuble de bureau, la grande halle d'embouteillage et quelques immeubles en pierre qui méritent de l'attention. La partie jaune est celle qui est moins intéressante et le parvis serait créé entre l'immeuble rideau et sur la façade rue Fondaudège. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant dans cette image, c'est de... Nous, en tout cas, on avait demandé à ce que le mur pignon dégagé soit traité de manière astucieuse et intelligente pour ne pas rentrer trop en concurrence avec cette façade qui allait être réhabilitée, mais en même temps donner une identité à la place. Donc c'est à l'époque on avait suggéré une intervention artistique qu'ils ont reprise dans leur projet ou un mur végétal, enfin voilà, on avait laissé assez ouvert et puis on avait demandé à ce que pour la future façade, le futur mur rideau, vu qu'à l'époque il y avait eu innovation technique, bah que là les architectes utilisent aussi une innovation technique d'aujourd'hui. Voilà, ce qu'ils ont fait, parce qu'à la deuxième réunion, on a vu, donc c'est une méthode éprouvée, Rayalfen, mais sur des grands panneaux de façade cette fois. Donc on voit apparaître là. Voilà. Et on avait la dernière recommandation qu'on avait faite, c'était de faire référence au bleu Marie Brizard, qui est là encore l'essence, l'ADN hein, de la marque. Donc ils l'ont fait, hein, donc deuxième réunion, ils nous ont présenté ce projet hein, qu'on a tous salué hein, pour sa grande qualité. Et là par contre, ce qui est revenu, c'est le bleu, oui, très bien à l'intérieur, mais quid de l'extérieur ? Bon, c'est, voilà le genre de sujet qu'on a eu, c'est-à-dire être trop de bleu, pas assez de bleu, ça représente effectivement typiquement de l'architecture industrielle, mais il y a beaucoup de menuiseries, donc... Voilà. Est-ce qu'il en faut plus, pas assez voilà. Donc voilà le genre d'échange qu'on a eu. Et puis voilà, le projet avance bien, puisque oui, tu as mis une photo de démolition. Alors la maquette est exposée là, voilà, au rez-de-chaussée. Donc il reste finalement la question de l'œuvre artistique sur le mur, qu'on souhaiterait à l'occasion revoir. Et là, typiquement, on a suivi un projet au bon moment, de bonne manière. Et j'allais dire, il y a un enjeu pédagogique très fort, puisque le promoteur, on sent, s'en saisit sur d'autres projets, si je comprends bien. Il y a vraiment une approche différente qui s'est faite dans la co-construction. Voilà, moi, ce que je peux dire de mon ressenti.
Moi, ce que je voulais juste rajouter sur ce projet, qui c'est vraiment un projet symptomatique du comité local, parce qu'on on est bien sûr dans le site inscrit, mais là on est à la fois sur du patrimoine pierre qu'on a dévoilé, que les Bordelais connaissaient plus, qu'on redévoile, on est sur de l'architecture moderne que l'on cherche à mettre en valeur aussi. Faut savoir qu'au sein du club il y a des gens qui sont passionnés de pierre, il y en a d'autres qui sont passionnés d'architecture moderne, donc les discussions peuvent être mouvementées. Autre point très symptomatique, et là qui montre bien le caractère important de UNESCO, c'est Marie Brizard. Marie Brizard, c'est là on est vraiment dans l'esprit UNESCO, dans le Bordeaux qui s'exporte, et donc là c'était évident qu'on travaille, que nous travaillions dessus. En plus, il y a une emprise urbaine, donc là c'était vraiment la totale, ce dossier. Il est intéressant, je crois que ça, et c'est pour ça qu'il a remporté l'adhésion très vite, parce que finalement, il a fait plaisir à tout le monde. Il a fait plaisir à tout le monde parce qu'il a préservé la pierre qui était vraiment cette halle qui est quand même splendide. Hein. Il faut le dire, il a préservé cette architecture moderne qui est aussi très très typique, avec au rez-de-chaussée le musée Marie Brizard, donc qui garde l'empreinte, et ça c'était important, que Marie Brizard reste un peu chez elle, quoi, ici, rue Fondeau-Dège. Voilà.
Bien. Est-ce que vous avez d'autres exemples dont vous aimeriez nous parler, d'autres souvenirs, où on va passer la parole à la salle? Alors, d'autres membres du club nous ont rejoints. J'en vois au moins deux, voire trois, enfin deux et demi, on va dire. Est-ce que le demi veut s'exprimer? Allez, je vais passer le micro. On n'a qu'un micro, donc on va le partager.
Bonsoir. Donc je suis Xavier Clark, je suis conseiller pour l'architecture à la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que je suis régulièrement invité à ce club et jusqu'à présent j'ai pas réussi à me libérer suffisamment de temps, mais ça ne saurait arriver. D'abord, c'est vrai que je considère que c'est un exercice qui est très intéressant dans la mesure où j'ai le sentiment que c'est un lieu où on ouvre la question de l'architecture à un grand public, à des usagers. On vous l'avait dit, c'est un lieu de dialogue. Et cette question du dialogue et de l'échange autour de l'architecture avec l'ensemble des représentants, une sorte d'échantillonnage de la société civile, est suffisamment rare pour être relevée. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de la stratégie nationale pour l'architecture qui a été élaborée il y a 2-3 ans. C'était un des sujets fondamentaux, c'était replacer l'architecture au cœur de la société civile. Donc c'est vrai que je pense que ce genre de démarche est complètement en adéquation avec ces attentes-là. Et en plus, est complètement en attente aussi avec la volonté de l'UNESCO de faire en sorte que les gens s'approprient le bien et, en l'occurrence, là, le devenir et l'évolution de Bordeaux. Après, il y a forcément des questions qui se posent. Hein. Donc moi, comme ça, avec la présentation qui a été faite, j'avais deux interrogations principales. C'était la question de la sélection, c'est-à-dire sur quels critères est faite la sélection, puisque vous l'avez dit, hein, le club n'a pas peut-être vocation ni même les moyens d'étudier l'ensemble des projets qui peuvent poser question, hein, parce qu'il y a aussi Bordeaux, il y a énormément de projets, et donc il y a énormément de projets qui posent question naturellement. Donc comment se fait cette sélection des projets qui sont présentés devant le club? Et la deuxième question, c'est à partir du moment où on parle d'échange, de lieu d'échange, c'est important qu'il y ait aussi des critères et un vocabulaire et des repères communs. Donc c'était pour savoir si cette grille un peu d'analyse, à part le sens du lieu hein, qui a été bien évoqué, avait été élaborée ou était élaborée au fur et à mesure de l'existence du club. Est-ce qu'on arrive à se forger un peu une doctrine ou des critères d'évaluation, on va dire, voilà, qui puissent être partagés par tous.
Qui veut répondre? Tu veux répondre, Anne? Non.
Alors oui, moi je vais répondre. Alors effectivement, le club version 1, génération 1 en fait, puisque Aurélie et Élodie et Aurélien nous ont rejoints un peu plus tard, en 2009, la première chose qui a été faite, c'est de faire effectivement une grille méthodo d'analyse de ce qu'on... On a commencé par appeler les impacts potentiels, et puis après on a dit non, c'est les effets, pour essayer de mettre en relation les projets qu'on allait vouloir examiner avec les attributs de la valeur universelle exceptionnelle. Parce que la difficulté, c'est ça, c'était pas c'était de rester dans la droite ligne du sens de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et du coup, de ce faisant, de la conforter. Donc de donner des recommandations qui allaient permettre aux porteurs de projets de conforter à travers leur intervention dans le site cette valeur universelle exceptionnelle. Un peu comme le projet de réaménagement des quais a permis cette inscription, puisqu'elle a permis de voir ce patrimoine extraordinaire. Je pense qu'on n'a pas réussi la candidature jusqu'au bout dans la situation des quais avant le projet de Courage-Vous. Or, pourtant, ce projet a changé totalement la fonction portuaire des quais, même voilà, le quartier des bassins à flots est dans la continuité, effectivement, pose question. Donc, ce n'est pas des choses qui sont si évidentes. Et le dialogue et l'acculturation et le rassemblement de personnes aussi de bonne volonté, voilà, avec pas mal de bienveillance. Et puis, il faut souligner que les membres du club sont des bénévoles et donc ils donnent de leur temps et de leur savoir pour alimenter ces débats. Donc voilà, donc il y a une grille, mais tout le monde l'a à peu près en tête, cette grille, et on n'est pas à cocher les cases dans la grille. En revanche, quand il y a des membres nouveaux qui apparaissent, on fait des balades en bus autour du site où on re-explique. Alors c'est souvent Sylvain qui s'y colle, hein, et qui nous fait une explication de texte du développement urbain de Bordeaux autour du site portuaire, etc. Et puis après, on regarde ensemble, toujours hein, ça, on part du terrain, on regarde ensemble les choses et les questions qui s'y posent. Donc ça, c'est pour la première partie de la réponse. Et puis pour la deuxième partie de la réponse, alors ça m'a fait penser qu'on a des flyers que j'avais demandé à Salima d'apporter pour qu'on puisse les avoir sur la table, et ils ne sont pas sur la table, donc je pense qu'ils sont quelque part dans le hangar, mais on les remettra à disposition parce qu'il y a une autre conférence club samedi soir avec Bruno Fortier, Paul Trouillot et puis le président du... Voilà, alors merci Elodie. Voilà, on a fait ces flyers pour que les porteurs de projets sollicitent le club directement. Bon, ça arrive assez rarement. Donc c'est plutôt par repérage interne, parce qu'on est un peu informé des projets auparavant, par intuition, quand on voit un projet, de demander, par exemple, on pourrait reparler, c'est assez intéressant, de ce qui s'est passé autour de la place André Meunier. On a commencé en 2009 à avoir un projet d'école autour de la place André Meunier. Puis après, il y avait un projet de gymnase autour de la place André Meunier. Alors les membres du club nous ont rapidement dit, écoutez, vos projets autour de la place André Meunier, alors tout seul comme ça, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le projet urbain d'ensemble autour de la place André Meunier, Santé Navale, Sainte-Croix, etc. Et ça, c'était avant qu'ait été menée les études anthropo sur le centre historique et ce qui a préfiguré le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, c'est-à-dire l'étude urbaine qui avait été confiée à Nicolas Michelin et qui a permis le plan Guine et du coup qui a mis en relation en fait toutes ces pépites, ces opportunités de projet dans un dessin un peu d'ensemble de reconstituer entre la place Max Dormois, traversant Ténaval, traversant la place André Meunier, Sainte-Croix. Voilà. Et donc on a, à partir de cette expérience-là, compris qu'il fallait présenter des projets dans leur ensemble, avec des temporalités peut-être différentes, etc. C'est hyper empirique et c'est à chaque fois work in process, c'est-à-dire que voilà, et c'est sur la base de la bonne volonté, celle des membres du club qui discutent des projets, mais aussi celle des collègues qui, selon leur plus ou moins grande flexibilité, leur plus ou moins grand caractère ou façon administrative de traiter les projets, se rendent disponibles au bon moment pour qu'on puisse discuter des projets. Puis après, il y a des choses qui sont signalées en commission d'avant-projet par Bruno Fortier qui dit, attendez, moi là, je veux qu'on en parle avec le comité local UNESCO Bordeaux. Puis après, il y a toutes sortes de propositions, parce qu'il y a des sujets transversaux, il y a les études d'archéogéographie qui sont... pas de l'ordre du projet, mais de l'ordre de la connaissance qui se construit autour de ce site. Lundi, on va voir une entreprise qui travaille sur des techniques de restauration de la pierre et de recalcification. Et ça, c'est quelqu'un, Geneviève Robert, architecte, pour ne pas la nommer, qui nous a sollicité pour que le club reçoive cette entreprise. Donc ça se passe comme ça, mais ça peut se passer autrement s'il y a de bonnes idées, de bonnes raisons et de... Voilà. Enfin, l'objectif, c'est vraiment acculturation, informer le Centre du patrimoine mondial que les projets de transformation, ils se font à Bordeaux dans le cadre d'un débat avec une forme de concertation experte. Et puis après, il y a les outils réglementaires, etc. Tout ça, ça fait partie aussi du plan de gestion. Mais il y a cette forme de concertation experte.
Moi, ce que je retiens aussi du club, enfin en tout cas pourquoi je continue à venir, parce que c'est vrai que ça demande du temps, bien sûr, mais c'est que finalement, on apprend beaucoup les uns des autres et que du coup, ce qu'on apprend des uns des autres nourrit forcément les projets. Voilà. Et c'est la grande richesse qui me marque. Oui, il y a des départs, il y a des renouvellements, il y a du changement. Bien sûr, le club, ce n'est pas figé, ça vit. Moi, je suis finalement une récente, parce que je suis arrivée qu'en fin 2014. Mais j'y trouve mon compte aussi pour ça, c'est qu'il y a vraiment des échanges très riches. Et en l'occurrence, j'apprends beaucoup des historiens. Alors moi, je ne suis qu'architecte, et donc je découvre une partie de Bordeaux, parfois des coins que je n'ai jamais vus. Et je pense que les uns nourrissent les autres. Voilà. Et que l'intérêt, c'est vraiment de voir un sujet qui puisse concerner d'autres, en fait. C'est ce que tu disais, Anne-Laure, c'est qu'il y a des sujets qui sont très anecdotiques, et d'autres, quand on parle d'une surélévation sur un toit, si on en débat une fois, ça nourrit notre culture pour d'autres sujets.
Oui, ce qu'il faut noter aussi, c'est l'ouverture à la société civile, et notamment aux représentants de quartier. Donc voilà, il y a des historiens, il y a des architectes, il y a de tout, et il y a aussi les représentants de quartier. Et c'est important que eux-mêmes donnent leur avis sur la préservation du patrimoine, pour que finalement l'inscription UNESCO soit pas juste quelque chose pour faire plaisir à certains, mais que ce soit une appropriation générale de la ville.
Il y en a ici des membres du club. Michel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Effectivement, j'ai plutôt fait partie des premières réunions du club qui avaient commencé avec la réflexion sur le pont Chaban-Delmas. C'est vrai que, comme tu le dis, le rapprochement avec des grands sachants sur des périodes différentes de l'histoire de l'architecture et de l'histoire de l'art, c'est très enrichissant et ça donne des éclairages. Il y a aussi beaucoup de modération. Je crois qu'il y avait un esprit très, très bordelais. C'était des réunions assez feutrées. Il y a eu peu d'éclats. Bon, il y en a eu quelques-uns parfois. Mais j'ai beaucoup apprécié cette recherche du consensus et ça a attiré beaucoup de projets vers le haut. Et je regrette de moins venir parce que... C'est compliqué. Et c'est vrai qu'aussi, l'ouverture les gens ont un peu changé. Il y avait peut-être plus d'historiens au départ. Il y a maintenant les gens de la société civile. On est peut-être un peu plus dans l'usage. Puis peut-être que les grands thèmes de départ se sont épuisés, puisqu'au début, c'était plutôt s'opposer à des démolitions. C'était plus dans l'urgence. Et maintenant, c'est plus dans le détail et la finesse.
Anne-Marie, vous voulez peut-être dire un mot sur votre participation au club ?
Je viens du fin fond de la Dordogne, je suis quand même assez épuisée, mais ce que je veux dire, c'est un creuset où circulent, c'est vrai, les idées. Et Michel était en train de mettre l'accent sur l'aspect historique. C'est vrai qu'on ne débat jamais sans avoir une connaissance assez large de la question donc, qui va être en débat. Alors, c'est vrai, c'est très enrichissant parce qu'on est finalement assez ignorant de sa ville et grâce au club, on a peut-être envie d'en savoir davantage. Ce que je veux dire aussi, c'est que l'approche est toujours une approche dans le sens d'une ville qui se renouvelle. On n'a pas à donner un avis qui soit un avis complètement abstrait. Il se situe toujours dans un contexte plus large, Anne-Laure l'a très bien indiqué, dans un contexte territorial et par ailleurs dans un contexte de réutilisation de la ville. Donc moi, il me semble que c'est un lieu privilégié. Et peut-être qu'il faudrait qu'il soit donc plus ouvert. C'est un lieu où circule la culture urbaine qui fait défaut assez souvent, me semble-t-il. Donc le club, me semble-t-il, devrait être plus connu et devrait peut-être... Non, mais... Oui, enfin, c'est tellement intéressant ce qui circule que peut-être qu'on n'en cueille peut-être pas tous les fruits d'une façon aussi efficace que cela serait souhaitable. Parce qu'il y a une certaine déperdition quand même d'énergie. Et je pense que ça pourrait peut-être être évité. Mais enfin, pour ce qui me concerne, je trouve que la fréquentation des uns et des autres est très enrichissante.
On accueille des membres du club, donc Pierre Ferré vient de nous rejoindre. Est-ce que tu veux dire un mot sur ta participation au club, sur ce que tu en penses ?
Qu'est-ce que je pense du club ? Bon, mais c'est un organisme informel, bien qu'un petit peu formel, qui, à mon avis, a une efficacité intéressante, c'est qui, en tout cas pour ceux qui y sont. Ceux qui subissent, je ne sais pas, en fait, qui subissent, c'est un grand mot, mais parce que ça permet de mélanger les genres, les métiers, les professions. Il y a des gens qui ne sont pas du tout ni archi, ni paysagistes, ni quoi, qui sont habitants, qui sont représentants. Donc je trouve que c'est un mélange d'avis multiples qui ne peut être qu'enrichissant pour un architecte en tout cas. Voilà, quoi. Donc il faut multiplier ce genre de démocratie participative, on va dire, puisque c'est, enfin, je pense que vous l'avez déjà dit, c'est surtout pas un organisme de contrôle sévère, mais d'aide à la compréhension de l'architecture, qu'elle soit des bâtiments publics importants ou des petites maisons qui sont tout aussi importantes, en tout cas pour ceux qui les habitent. Voilà.
Oui, bonsoir, Paul Troyot, paysagiste, membre du comité aussi également, depuis 5 ans. Oui, moi je trouve le comité, c'est beaucoup d'échanges partagés, disputés, on n'est pas souvent d'accord. Il y a souvent beaucoup d'échanges, chacun exprime son point de vue et on arrive à argumenter. Et ce qui est le moment intéressant, c'est la conclusion. Il faut argumenter, il faut conclure. Donc ça... ce regard assez éclectique où l'ensemble des professionnels et des professions sont représentés, où l'ensemble des regards, l'habitant, face au patrimoine et au culturel UNESCO, ça, je trouve ça ce regard extrêmement passionnant. De façon plus proche de la pratique, sur le regard du paysage, voilà, on essaye de toujours réorienter cette question, les sujets vers cette question. La place du végétal en ville, la place du végétal... en rapport avec le monument historique, avec la façade classée, avec le projet qui nous est proposé. Ça, c'est quand même précieux qu'on ait aussi, on débatte de ces sujets-là à chaque commission, vraiment. Voilà.
On peut quand même dire qu'on peut quand même encore s'améliorer. Hein, parce que... Ok, je pense qu'on est tous contents de ce fonctionnement, mais moi je pense qu'on peut encore faire un effort sur, on l'a dit, c'est le grand public, c'est mieux expliquer ce qu'on fait, d'où la conférence de ce soir par exemple, il y a peut-être d'autres actions à envisager. Bon voilà, c'est peut-être un peu tard, il y a peut-être beaucoup de choses, mais je pense qu'on gagne encore à avancer là-dessus. Et il faut toujours se remettre en question en permanence, et effectivement la grille de lecture elle évolue. Voilà, moi c'est ce que je retiens, c'est le perpétuel mouvement aussi l'UNESCO, hein. C'est absolument pas figé, le club comme la protection d'ailleurs. Voilà, je te laisse le mot de la fin. Alors, je te chipe le micro, alors on a vraiment une cheville ouvrière mais qui reste très discrète mais qui est à la base de tout, c'est Anne-Laure Moniaud qui anime ces réunions, qui prépare, qui s'assure qu'on soit tous là. C'est un vrai, vrai boulot qui prend beaucoup de temps. Et au nom de tout le monde, je voudrais te remercier.
De charge de compiler tous nos
et avis. Qui doit compiler nos avis contradictoires pour faire un avis en moins d'une page. Voilà. Donc bravo Anne-Laure pour tout ce travail.
Merci. Alors, on va redoubler d'efforts pour se faire connaître auprès du bon public. Et on va commencer par une deuxième séance de parole au club qui aura lieu samedi, un peu plus tôt, de 18h à 19h, et qui accueillera donc Paul Trouillot, que vous avez commencé à entrevoir, qui nous parlera d'un exemple de projet de paysage dont on a déjà parlé dans le hangar, puisque c'est le cas de la place Gambetta. Et puis surtout, il y aura un écho entre Bordeaux et Saint-Pétersbourg, puisqu'il y aura Sergueï Makarov, qui est le président du comité du patrimoine de Saint-Pétersbourg, qui est un comité très puissant. Donc, il nous expliquera comment ça fonctionne à Saint-Pétersbourg. C'est aussi un ensemble urbain vivant. Pour dialoguer avec ces deux personnages, Bruno Fortier, qui est également architecte urbaniste conseil de la ville de Bordeaux, et avec Anne-Marie Civilis, membre de l'Atelier Garonne, qui est une autre instance, mais qui a à voir aussi avec ces questions de patrimoine au sens de la grande échelle et du paysage en bordure de Garonne. Voilà, donc rendez-vous samedi à 18h, et d'ici là, belle agora, parce qu'il y a plein d'autres choses à voir également. Merci d'être venu.